ფრანგული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. ფრანგული ენის ტესტის მოსმენის დავალება.
Bienvenue à l'épreuve de compréhension orale de l'examen d'entrée à l'université. Exercice 1. Compréhension de l'oral. Écoutez les 5 documents sonores. Répondez aux questions qui les suivent en choisissant la bonne version parmi A, B ou C. Vous allez écouter chaque enregistrement 2 fois. Vous avez 20 secondes pour lire les questions. Bonne chance. Texte numéro 1.
J'ai 14 ans. Je m'appelle Marie et j'ai une vie heureuse. Nous autres, adolescents, 13-18 ans environ, dépendons affectivement et matériellement de nos parents. Mais nous avons néanmoins une plus grande autonomie. Moi, par exemple, j'ai mon argent de poche grâce à mes parents et je peux acheter certaines choses avec cet argent. Des magazines, des disques, des vêtements. L'adolescence est prolongée dans mon pays jusqu'à 20 ans. Un jeune sur deux vit encore chez ses parents. Ce sera aussi mon cas, car mes relations avec mes parents sont parfaites. Il y en a d'autres qui se querellent assez violemment avec leurs parents, mais sont obligés de vivre avec eux parce qu'ils n'auraient pas de quoi vivre sans eux, ou bien ils ont peur d'une vie indépendante. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui veulent vivre en dehors de leur famille à l'âge de 20 ans. Il me semble qu'à cet âge-là, on serait perdu loin du foyer. J'ai 14 ans. Je m'appelle Marie et j'ai une vie heureuse. Nous autres, adolescents, 13-18 ans environ, dépendons affectivement et matériellement de nos parents. Mais nous avons néanmoins une plus grande autonomie. Moi, par exemple. J'ai mon argent de poche grâce à mes parents et je peux acheter certaines choses avec cet argent. Des magazines, des disques, des vêtements. L'adolescence est prolongée dans mon pays jusqu'à 20 ans. Un jeune sur deux vit encore chez ses parents. Ce sera aussi mon cas, car mes relations avec mes parents sont parfaites. Il y en a d'autres qui se querellent assez violemment avec leurs parents, mais sont obligés de vivre avec eux parce qu'ils n'auraient pas de quoi vivre sans eux. Ou bien, ils ont peur d'une vie indépendante. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui veulent vivre en dehors de leur famille à l'âge de 20 ans. Il me semble qu'à cet âge-là, on serait perdu loin du foyer.
Texte numéro 2. Michel Platini est né le 21 juin 1955 à Jeuf. Il a été le meneur de jeu emblématique de l'équipe de France de 1976 à 1987 et l'auteur de 356 buts durant sa carrière. Platini est considéré comme un des meilleurs joueurs de football de l'histoire. Le magazine France Football le désigne meilleur footballeur français du XXe siècle devant Zinedine Zidane et Raymond Coppa. Il est le premier footballeur à remporter le Ballon d'Or 3 fois consécutivement et fait partie de l'équipe mondiale du XXe siècle. Avec l'équipe de France et Michel Hidalgo, son entraîneur, Platini soulève son premier trophée international à l'issue de l'Euro 1984 qu'il remporte en finale face à l'Espagne. Platini est deux fois demi-finaliste de la Coupe du Monde en 1982 et en 1986. Lors de l'Euro 1984, il établit un record de 9 buts marqués durant ce seul tournoi. Michel Platini met un terme à sa carrière de joueur sous le maillot de la Juventus de Turin à la fin de la saison 1987, à l'âge de 32 ans. Michel Platini est né le 21 juin 1955 à Jeuf. Il a été le meneur de jeu emblématique de l'équipe de France de 1976 à 1987 et l'auteur de 356 buts durant sa carrière. Platini est considéré comme un des meilleurs joueurs de football de l'histoire. Le magazine France Football le désigne meilleur footballeur français du XXe siècle devant Zinedine Zidane et Raymond Coppa. Il est le premier footballeur à remporter le Ballon d'Or 3 fois consécutivement et fait partie de l'équipe mondiale du XXe siècle. Avec l'équipe de France et Michel Hidalgo, son entraîneur, Platini soulève son premier trophée international à l'issue de l'Euro 1984 qu'il remporte en finale face à l'Espagne. Platini est 2 fois demi-finaliste de la Coupe du Monde en 1982 et en 1986. Lors de l'Euro 1984, il établit un record de 9 buts marqués durant ce seul tournoi. Michel Platini met un terme à sa carrière de joueur sous le maillot de la Juventus de Turin à la fin de la saison 1987 à l'âge de 32 ans. Texte numéro 3.
Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées du monde. C'est aussi le plus grand musée parisien. Situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine, le bâtiment est un ancien palais royal. Il est situé sur un axe qui comprend la Concorde, l'Étoile et va jusqu'à la Défense. C'est aussi le plus vaste musée au monde avec 210 000 m² de surface, dont 60 600 m² de galeries. À Paris, les œuvres postérieures à 1848 sont désormais exposées au musée d'Orsay et au centre Pompidou, tandis que les arts asiatiques sont la spécialité du musée Guimet et les arts d'Afrique, d'Amérique et d'Océanie sont celles du musée du Quai Branly. Les principaux chefs-d'œuvre du musée du Louvre sont des peintures, sculptures, dessins, céramiques, objets archéologiques et objets d'art. Parmi les pièces les plus célèbres du musée se trouvent le Code d'Amourabi, la Vénus de Milo, la Joconde de Léonard de Vinci et la Liberté guidant le peuple de Jeanne de la Croix. Le Louvre est le musée le plus visité au monde, avec 8,3 millions de visiteurs en 2006. Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées du monde. C'est aussi le plus grand musée parisien. Situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine, le bâtiment est un ancien palais royal. Il est situé sur un axe qui comprend la Concorde, l'Étoile et va jusqu'à la Défense. C'est aussi le plus vaste musée au monde avec 210 000 m² de surface, dont 60 600 m² de galeries. À Paris, les œuvres postérieures à 1848 sont désormais exposées au musée d'Orsay et au centre Pompidou, tandis que les arts asiatiques sont la spécialité du musée Guimet et les arts d'Afrique, d'Amérique et d'Océanie sont celles du musée du Quai Branly. Les principaux chefs-d'œuvre du musée du Louvre sont des peintures, sculptures, dessins, céramiques, objets archéologiques et objets d'art. Parmi les pièces les plus célèbres du musée se trouvent le Code d'Amourabi, la Vénus de Milo, la Joconde de Léonard de Vinci et la Liberté guidant le peuple de Jeanne de la Croix. Le Louvre est le musée le plus visité au monde, avec 8,3 millions de visiteurs en 2006.
Texte numéro 4. Le Festival d'Avignon est la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant en France et l'une des plus importantes au monde par le nombre de créations et de spectateurs réunis. Il n'y a que le Festival d'Édimbourg auquel on pourrait le comparer. Fondé en septembre 1947 par Jean Villard, sur la suggestion du marchand de tableaux Christian Zervos, ce Festival des arts du spectacle est considéré comme le plus ancien et le plus célèbre de France. À l'origine, simple semaine d'art dramatique, offrant alors 3 créations dans 3 lieux scéniques différents, cet événement devient, en juillet 1948, le Festival d'Avignon. Aujourd'hui, la cour d'honneur du Palais des Papes devient la scène principale du festival, qui comprend plus de 30 lieux de représentation, gymnase, cloître, chapelle, jardin, carrière, église, dans la ville et sa région. Le Festival d'Avignon est la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant en France est l'une des plus importantes au monde par le nombre de créations et de spectateurs réunis. Il n'y a que le Festival d'Édimbourg auquel on pourrait le comparer. Fondé en septembre 1947 par Jean Villard sur la suggestion du marchand de tableaux Christian Zervos, ce festival des arts du spectacle est considéré comme le plus ancien et le plus célèbre de France. À l'origine, simple semaine d'art dramatique offrant alors trois créations dans trois lieux scéniques différents, cet événement devient, en juillet 1948, le Festival d'Avignon. Aujourd'hui, la cour d'honneur du Palais des Papes devient la scène principale du festival qui comprend plus de 30 lieux de représentation, gymnase, cloître, chapelle, jardin, carrière, église, dans la ville et sa région. Texte numéro 5.
La Comédie française, ou Théâtre français, est une institution culturelle française fondée par ordonnance royale de Louis XIV en 1680. Elle réside depuis 1799 en la salle Richelieu au cœur du Palais Royal dans le premier arrondissement de Paris. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial depuis 1995 et c'est le seul théâtre d'État en France qui a une troupe permanente de comédiens, la troupe des comédiens français. Bien que mort depuis 7 ans quand la troupe a été créée, Molière est considéré comme le patron de l'institution, surnommée la Maison de Molière. Le fauteuil dans lequel il entre en agonie lors d'une représentation du Malade imaginaire est toujours exposé au fond de la galerie des bustes. À l'époque, le répertoire se compose de l'ensemble des pièces de théâtre de Molière et de Jean Racine, ainsi que de quelques pièces de Pierre Corneille, Paul Scarron et Jean Rotrou. L'emblème de la Comédie française est une ruche et des abeilles, à l'image d'une institution foisonnante. La Comédie française, ou Théâtre français, est une institution culturelle française fondée par ordonnance royale de Louis XIV en 1680. Elle réside depuis 1799 en la salle Richelieu au cœur du Palais Royal dans le premier arrondissement de Paris. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial depuis 1995 et c'est le seul théâtre d'État en France qui a une troupe permanente de comédiens, la troupe des comédiens français. Bien que mort depuis 7 ans quand la troupe a été créée, Molière est considéré comme le patron de l'institution, surnommée la Maison de Molière. Le fauteuil dans lequel il entre en agonie lors d'une représentation du Malade imaginaire est toujours exposé au fond de la galerie des bustes. À l'époque, le répertoire se compose de l'ensemble des pièces de théâtre de Molière et de Jean Racine, ainsi que de quelques pièces de Pierre Corneille, Paul Scarron et Jean Rotrou. L'emblème de la Comédie française est une ruche et des abeilles, à l'image d'une institution foisonnante.
Exercice 2. Écoutez l'enregistrement et cochez pour chaque question, de 1 à 8, la bonne réponse, A, B ou C. Vous avez 30 secondes pour lire les questions. Vous entendrez l'enregistrement 2 fois. David Cano, un jeune homme de 18 ans, n'attendait que le mois de septembre. Enfin, sa vie allait changer. Il allait devenir étudiant. Il allait commencer une nouvelle vie. La vie dont il avait toujours rêvé. Juin a été un mois terrible pour David
avec tous ses examens de fin d'études. Les résultats des examens ont été rendus publics en août, après 2 mois passés d'attente. Il était inquiet lorsqu'un matin, l'enveloppe contenant les résultats de l'examen est arrivée chez lui. David n'était pas le garçon le plus intelligent de son école. Certains de ses camarades se débrouillaient beaucoup mieux que lui et il le savait. Donc, il ne pensait pas avoir très bien réussi aux examens. Cependant, les bonnes notes étaient très importantes pour David. Il devait réussir ses examens de fin d'études pour pouvoir aller à l'université et s'éloigner de sa ville natale. Comme pour beaucoup de gens de son âge, aller à l'université était avant tout une chance pour David de quitter sa ville natale et ses parents, de rencontrer de nouvelles personnes, de ne plus être un enfant et de devenir adulte. Vivre dans un autre endroit pour lui était en fait une chance de commencer une vie indépendante dans une ville différente, et une chance de devenir une personne nouvelle et totalement différente. La ville où David habitait était située dans le nord-est de la France. La ville ne comptait qu'une université et un café. Il y avait aussi un petit musée qui présentait des artefacts intéressants de l'époque ancienne. Mais c'était la météo qui gâchait tout. Il y avait très peu de jours ensoleillés et la pluie était une chose habituelle. Toujours de la pluie, pas de vent et pas de neige non plus. La ville était petite, il n'y avait presque pas de lieu de rencontre et de discussion pour les jeunes. Il passait donc du temps à parcourir la grande rue. Il ne s'y passait rien de nouveau, de différent ou d'inhabituel. C'était ennuyeux et les jeunes le sentaient. La plupart d'entre eux souhaitaient quitter les lieux pour avoir une meilleure éducation ou des possibilités pour trouver de l'emploi. David était également impatient de partir. La ville était trop petite pour lui. Le jour d'août où David ouvrait l'enveloppe contenant les résultats de l'examen, ses mains tremblaient. Il a sorti la lettre, parcouru rapidement les résultats de son examen, et il a ressenti du soulagement. C'était bon. Il n'a pas eu de mention, mais ses notes étaient assez bonnes. Il avait obtenu une place à l'université de Lyon et les cours commençaient en septembre. Puis le jour est venu où David est arrivé à Lyon. Quand il est descendu du train, il s'est senti enfin libre. David voulait aller à Paris pour étudier, mais sa mère avait dit que c'était trop loin et trop cher. Il avait essayé d'aller à l'université de Strasbourg, mais les résultats de son examen n'étaient pas assez bons pour cette université qui a toujours été très prestigieuse. Il a donc dû accepter son autre choix, l'université de Lyon. Lyon, étant une ville industrielle, n'était pas le meilleur endroit, mais cela importait peu à David. Au moins, ce n'était pas sa ville natale. L'université ne se trouvait qu'à une courte distance du centre-ville. Ce n'était ni la plus vieille université de France, ni la plus prestigieuse, mais cela ne dérangeait pas David. Pour lui, c'était un nouveau monde, un nouveau départ. David Cano, un jeune homme de 18 ans, n'attendait que le mois de septembre. Enfin, sa vie allait changer. Il allait devenir étudiant. Il allait commencer une nouvelle vie. La vie dont il avait toujours rêvé. Juin a été un mois terrible pour David avec tous ses examens de fin d'études. Les résultats des examens ont été rendus publics en août, après 2 mois passés d'attente. Il était inquiet lorsqu'un matin, l'enveloppe contenant les résultats de l'examen est arrivée chez lui. David n'était pas le garçon le plus intelligent de son école. Certains de ses camarades se débrouillaient beaucoup mieux que lui et il le savait. Donc, il ne pensait pas avoir très bien réussi aux examens. Cependant, les bonnes notes étaient très importantes pour David. Il devait réussir ses examens de fin d'études pour pouvoir aller à l'université et s'éloigner de sa ville natale. Comme pour beaucoup de gens de son âge, aller à l'université était avant tout une chance pour David de quitter sa ville natale et ses parents, de rencontrer de nouvelles personnes, de ne plus être un enfant et de devenir adulte. Vivre dans un autre endroit pour lui était en fait une chance de commencer une vie indépendante dans une ville différente, et une chance de devenir une personne nouvelle et totalement différente. La ville où David habitait était située dans le nord-est de la France. La ville ne comptait qu'une université et un café. Il y avait aussi un petit musée qui présentait des artefacts intéressants de l'époque ancienne. Mais c'était la météo qui gâchait tout. Il y avait très peu de jours ensoleillés et la pluie était une chose habituelle. Toujours de la pluie, pas de vent et pas de neige non plus. La ville était petite, il n'y avait presque pas de lieu de rencontre et de discussion pour les jeunes. Ils passaient donc du temps à parcourir la grande rue. Il ne s'y passait rien de nouveau, de différent ou d'inhabituel. C'était ennuyeux et les jeunes le sentaient. La plupart d'entre eux souhaitaient quitter les lieux pour avoir une meilleure éducation ou des possibilités pour trouver de l'emploi. David était également impatient de partir. La ville était trop petite pour lui. Le jour d'août où David ouvrait l'enveloppe contenant les résultats de l'examen, ses mains tremblaient. Il a sorti la lettre, parcourut rapidement les résultats de son examen et il a ressenti du soulagement. C'était bon. Il n'a pas eu de mention, mais ses notes étaient assez bonnes. Il avait obtenu une place à l'université de Lyon et les cours commençaient en septembre. Puis le jour est venu où David est arrivé à Lyon. Quand il est descendu du train, il s'est senti enfin libre. David voulait aller à Paris pour étudier, mais sa mère avait dit que c'était trop loin et trop cher. Il avait essayé d'aller à l'université de Strasbourg, mais les résultats de son examen n'étaient pas assez bons pour cette université qui a toujours été très prestigieuse. Il a donc dû accepter son autre choix, l'université de Lyon. Lyon, étant une ville industrielle, n'était pas le meilleur endroit, mais cela importait peu à David. Au moins, ce n'était pas sa ville natale. L'université ne se trouvait qu'à une courte distance du centre-ville. Ce n'était ni la plus vieille université de France, ni la plus prestigieuse, mais cela ne dérangeait pas David. Pour lui, c'était un nouveau monde, un nouveau départ. Fin de l'épreuve de compréhension orale. Merci.
Mosmeni stavaleba dasrulebulia.